local, écoute Cheese 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheers 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Un après-midi d'automne, je vais prendre une marche. J'entends les feuilles séchées qui craquent sous mes pieds au fil de mes pas. J'écoute attentivement ce son et admire les couleurs de celles qui tentent en vain de se tenir aux arbres. Un vent d'une odeur nostalgique me caresse le visage et des odeurs de paille me montent au nez. Je m'assois sur cette colline, sur une roche grise et froide. Je prends place entre quelques fourmis et des lichens. Je regarde l'horizon avant de fermer les yeux. J'écoute les sons. Je ressens mon corps. Je vis mon souffle. J'essaie tant bien que mal de cultiver ces temps de grâce de son monde essoufflé. Mais je ne suis pas pressé d'atteindre quoi que ce soit. Ce qui devra croître le fera bien. Je suis serein comme celui qui a semé chez moi les graines de ces moments de contemplation. Mathieu Ricard.
Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur la planète des sages, une émission qui s'ouvre au son de la voix de François Provost. François, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien Patrick, et toi?
Moi je suis toujours aussi heureux d'être de retour dans ce studio-là à parler de figures comme aujourd'hui.
Est-ce
à
que
parler...
tu vis le bonheur? C'est quoi le bonheur?
Ben c'est ça, on va falloir se questionner aujourd'hui parce qu'on traite de Mathieu Ricard, on n'est pas juste nous deux, on a la chance d'avoir de retour en studio aujourd'hui avec nous, Raphaël Laverdière. Salut Raphaël.
Salut, salut.
Raph, je suis très content de te revoir dans le studio avec nous. Tu fais partie du bonheur de cette émission. Moi, je suis content.
Merci. Vous faites partie de mon bonheur aussi.
Ah.
Génial. Et là, on parle de Mathieu Ricard aujourd'hui et on n'a pas encore entendu sa voix. Ce serait le fun de déjà commencer avec un petit extrait sur Mathieu Ricard.
J'ai envie de le garder pour plus tard, Patrick.
Bon, il change tous les plans de l'émission, ce François-là.
Moi, je suis... Non, je vais jamais sur des sentiers battus. On essaie d'autres choses. Mais Mathieu Ricard, donc, si quelqu'un ne le savait pas, c'est un moine bouddhiste, photographe ainsi que biologiste. Donc, tout qu'un curriculum vitae. On va avoir l'opportunité de le savoir un peu plus parce que j'ai préparé une petite biographie pour nous mettre, pour mieux comprendre le personnage. Avant, j'aimerais savoir de votre côté, Patrick et Raph, votre connaissance de Mathieu Ricard.
Ben moi, dans le fond, j'ai découvert Mathieu Ricard alors que je voyageais en Asie.
Wow!
Retournement de situation. Non, mais avant de partir dans mon voyage là, de jeune vingtenaire qui va à sa découverte, j'avais un intérêt pour le bouddhisme et on m'a recommandé le moine et le philosophe, qui est effectivement, je crois, la meilleure entrée dans le monde du bouddhisme, il y a une facilité pour les Occidentaux c'est ça, ben, parce que c'est un entretien entre Mathieu Ricard et son père, qui est un grand philosophe français, et ce dialogue-là a vraiment comme prémisse, ok, comment on peut comprendre d'un point de vue occidental le bouddhisme, le tibétain, mais c'est finalement cette philosophie orientale. On pourra en parler plus tard encore plus, mais c'est comme ça que je le connaissais.
Bien sûr, et toi Raphaël?
Moi j'ai peut-être une connaissance un peu moins personnelle que Patrick de Mathieu Ricard, mais c'est en visitant la bibliothèque de ma mère, donc je suis allée un petit peu moins loin géographiquement que Patrick, mais elle avait des livres de Mathieu Ricard, tout ça, puis c'est quelqu'un dont ça fait longtemps que j'entends parler dans les médias, à la télé, tout ça, à la radio, puis je pense que la première impression qui m'est restée de Mathieu Ricard, c'est ce que Patrick disait un petit peu là, à propos de un occidental de moine bouddhiste, c'était frappant pour moi, puis je pense que c'était frappant pour beaucoup de monde aussi. Puis ça a fait en sorte que on s'est rappelé de lui, on a voulu en savoir plus, je pense là, mais voilà, c'est comme ça.
J'ai un rapport assez similaire avec Mathieu Ricard que toi, Raph, parce que ce livre-là, je l'ai emprunté dans la bibliothèque de mon père.
Et en ce moment, François nous montre le livre, le plaidoyer pour le bonheur.
Oui, je le fais, on prend 5 secondes de visuel. La radio, c'est toujours un bon véhicule pour ça. Et vous le voyez, le livre?
Oui. Il est blanc.
Et c'est marqué plaidoyer pour le bonheur. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi une personnalité que j'ai découvert à travers différents médias. Donc, à chaque fois qu'il est dans l'espace public, je fais comme, Mathieu Ricard est là, je vais écouter, que ce soit dans la radio, au téléjournal, mettons. Et des fois, je me surprenais sur Internet en train de regarder des tech talks, puis lui, il est là parmi tant d'autres. Puis il y a toujours un discours très intéressant. Mais j'étais content dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui de vraiment un peu plus me plonger dans l'univers de cette personnalité-là. Donc, Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste, essayiste, photographe français qui est né le 5 février 1946 à Aix-les-Bains, ça c'est au sud-est de la France. Donc, sa mère était une peintre et qui s'est convertie d'ailleurs au bouddhisme également dans les années 60. Et son père, comme tu l'as mentionné, Patrick, c'est un philosophe et également essayiste. Jean-François Revel, de son vrai nom, c'est Jean-François Ricard. Et sa mère, j'ai oublié de le mentionner, s'appelait Yann Le Toumelin. Lui, il va grandir avec l'opportunité de rencontrer plein de gens intéressants, des artistes, des intellectuels, des scientifiques. Dans sa famille, il y a aussi des gens connus comme en France, là, surtout, mais des poètes, des journalistes. Son oncle, qui est un navigateur qui a fait le tour du monde en solitaire. Donc, il a vraiment grandi dans une espèce de monde parallèle là, avec des figures super intéressantes qui mériteraient peut-être toutes des émissions en tant que telles. Et lui va faire, Mathieu Ricard va découvrir son intérêt pour les spiritualités orientales. Ça va être à travers l'œuvre de l'auteur René Guénon. Donc, son oncle va lui passer des livres de René Guénon. Il va découvrir, enfin, ses premiers contacts avec la spiritualité orientale. Mais par la suite, ce qui va vraiment contribuer à son intérêt, c'est les documentaires du réalisateur Arnaud Desjardins sur le bouddhisme tibétain. Ça va vraiment le marquer tellement qu'il va aller découvrir l'Inde en 1967, dans la vingtaine. Il va faire la rencontre de certains maîtres spirituels tibétains, dont celui qui va devenir son maître, pardonnez-moi la prononciation, là, mais Kenyur Rinpoche, avec qui il va pratiquer la méditation et plus précisément la pratique spirituelle du guru yoga. C'est donc au début, 3 mois qu'il va passer en Inde pour la première fois, ça va vraiment le marquer. Ça va marquer son esprit parce que des méditations comme ça, des pratiques spirituelles, c'est des choses, c'est dans cet objectif-là de changer son esprit et son rapport à son esprit. Et par la suite, il va faire plusieurs allers-retours en Asie pendant les prochaines années alors qu'il va terminer son doctorat en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur de Paris. Et en 1972, il termine son doctorat. Il va décider d'aller faire ses études postdoctorales dans l'Himalaya afin de poursuivre ses activités spirituelles. Là-bas, il va y apprendre la langue tibétaine parlée et écrite. Et principalement, il dit que c'est une des meilleures façons d'apprendre la langue, c'est en traduisant des textes qui sont finalement des textes spirituels tibétains et qui plus tard va donner vie à plusieurs ouvrages, dont le livre Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains. Donc, il va faire la traduction et il va proposer ça au public occidental.
Oui, ce livre, d'ailleurs, je l'entendais en entrevue dire qu'à la base, c'était quelque chose de super personnel. C'était justement dans sa propre pratique contemplative, puis aussi d'apprentissage de la langue. Donc, c'est une démarche personnelle, mais à un moment donné, il a vu qu'il avait rassemblé plein de textes et il était comme « Ah, ben, il faut que je les donne au monde, ces textes.
Ben, »
C'est pour ça qu'il l'a publié.
Mais c'est ça, parce que ces textes-là, ces textes tibétains-là, ben, ils n'étaient pas disponibles pour le public occidental, surtout francophone. Donc, lui, va finalement donner cette possibilité-là de lire ces textes tibétains-là. Et finalement, justement, ça va l'amener puisqu'il va devenir moine en 1979 et il va rencontrer le Dalai Lama. Et avec cette expertise en plus de traduction de textes en français, bien, il va devenir finalement en 1989 l'interprète français du Dalai Lama.
Et je pense que ça montre déjà quelque chose d'important à propos de Ricard, soit qu'il brise cette image un peu du moine reclus. Et il revient souvent sur cette idée-là. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure. Mais déjà, on voit que l'image du moine qui ne vit que pour son propre bonheur à regarder une roche, c'est pas ça. Il y a une partie de retraite, effectivement, mais cette partie-là sert à revenir dans le monde. Et on voit très bien là, avec le travail que fait Ricard, entre autres en publiant des textes traduits, en étant l'interprète du Dalai Lama. Donc, tout ce pan-là de sa vie est super important, je pense.
Oui, oui, c'est important ce que tu dis, Patrick, parce que c'est lui, d'ailleurs, il va le dire, c'est souvent une espèce de préjugé qu'on a d'un moine dans son ermitage et reclus la civilisation, il n'y a plus de contact avec, mais lui, au contraire, par l'explication de sa philosophie, il démontre que c'est carrément, c'est pas l'objectif là, de s'éloigner de la civilisation. En tout cas, du moins, comment que lui, il le vit, et on va voir ça un petit peu plus tard. Pour venir à sa biographie, c'est en 1997 qu'on va le découvrir vraiment en Occident avec la publication du livre que tu mentionnais et que tu as lu au complet, je pense, Patrick.
Oui, exactement.
Le moine et le philosophe, donc oui. un livre écrit avec son père Jean-François Ravel.
Oui, et c'est une lecture à refaire pour moi là, en ce moment dans ma vie parce que à ce moment-là, je le lisais pour une découverte du bouddhisme en tant que tel, mais sans grande base de philosophie occidentale, alors que là, ben, dans mon chemin académique, j'ai appris plus et j'aimerais ça le relire pour justement mieux comprendre les comparaisons qui sont faites. Mais je me souviens déjà que le travail était super, super bien fait là, des deux parties, là, tant chez son père que chez lui, de un peu tirer la couverte chacun de leurs bords, de voici comment on voit ça du côté de Mathieu Ricard ben, chez les bouddhistes. Et après ça, d'accord, mais quel parallèle on peut faire à propos des philosophes ou des philosophies occidentales. Et là, ça, c'était le travail de Jean-François Revel.
Et j'imagine qu'il y avait aussi un travail des deux côtés de vulgarisation ou du moins d'une écriture qui se veut accessible parce que ce livre-là, il était vraiment... il était très, très populaire là, en France, mais même ici au Québec. Là, et ça va vraiment... ça va amorcer un nouveau pan de la vie de Mathieu Ricard, d'une figure, on pourrait dire, médiatique, mais en tant que moine bouddhiste. Et il va finalement écrit plusieurs ouvrages tels que Plaidoyer pour le bonheur en 2003, un ouvrage qu'on s'est amusé à explorer pour cette émission-là, en préparation de l'émission, L'art de la méditation en 2008, Plaidoyer pour les animaux en 2015, donc j'essaie juste de prendre différents titres pour vous montrer un peu l'amplitude des sujets qu'il va aborder, et son plus récent ouvrage est sorti en 2020, c'est L'abécédaire de la sagesse, publié aux éditions L'Iconoclaste, à la rire pour ceux qui veulent se le procurer, on dirait quasiment que j'ai été sponsorisé par une maison d'édition.
Mais quand même, ça fait un beau lien avec notre émission. Quel titre pour nous? La planète des sages, c'est ça le lien.
Ben oui.
L'abécédaire de la sagesse.
Oui, ben oui. Oui.
OK, tout le monde a compris.
C'est bon, ouais.
On peut poursuivre.
Ça prenait une petite explication.
Le moment de rire est là. Ouais. Bon, mais bon, tout ça, c'est très intéressant, son écriture, parce que moi, je ne le savais pas, mais la majeure partie de ses revenus, de ses droits d'auteur en tant qu'écrivain, vont contribuer à des projets humanitaires en Inde, au Népal et au Tibet. Donc, c'est principalement, ces revenus-là vont vont être utilisés pour les causes qui animent Mathieu Ricard, donc les causes environnementalistes, que d'ailleurs il va développer sous des termes de dans ses ouvrages, dans son engagement d'environnementaliste. Il va développer des concepts d'harmonie durable, comme lien de l'humain avec la nature, le concept de zoocide, donc qu'on fait un point de référence avec le génocide, mais la manière en fait, c'est une manière d'aborder l'extinction de masse des animaux sur Terre en raison de l'activité humaine. Donc, ces revenus de droits d'auteur vont être déployés pour certaines causes environnementalistes, mais aussi des causes humanitaires. Et à travers tout ça, Mathieu Ricard va également développer sa pratique contemplative à travers l'art de la photographie. Il va d'ailleurs participer à des expositions un peu partout dans le monde, faire des livres où il va exposer ses photos, et c'est des très belles photos, là. Et je le dis justement, ça c'est un peu mon interprétation de la chose, mais développer sa pratique contemplative, parce que comme il l'a dit lui-même, c'est un peu c'est des photos pas nécessairement comme à la mode d'exposer le pain le côté le plus sombre de l'humain, là, des photos de guerre là, où on voit beaucoup de causes sociales, puis voir comment que ça va mal dans le monde à travers la photographie, d'esthétiser le pas beau, mais finalement lui c'est vraiment plus un retour à la beauté, de quelque chose de très contemplatif dans sa photographie, je trouvais là, vraiment un autre secteur qui est très 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 intéressant.
Oui, ça vient un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure de ce besoin, ben ce travail-là de moine, de finalement aider les autres et de ne pas seulement travailler sur soi. J'ai entendu en entrevue dire, et à un moment donné, il est dans son ermitage et il voit un beau paysage et il fait ça, je peux pas garder ça pour moi. Donc c'est là où justement la photographie devient quasiment une nécessité pour lui de dire je dois partager ce moment, ou du moins une infime partie du moment, mais au monde.
Mais oui, puis ça fait partie, puis on va le temps d'un peu plus en parler, mais toute la philosophie bouddhiste de... Il y a une espèce de... Dans presque toutes les pratiques qu'on va développer, à un moment donné, vient une envie de partage, d'altruisme, de compassion, vraiment une envie de connexion humaine à travers tout notre vécu. Et lui, ça va être une façon de se connecter encore à la société, puis à l'Occident qui est intéressé à toute cette façon-là d'amener le bouddhisme d'une façon, on pourrait dire, occidentalisé, je veux dire, c'est une espèce de vulgarisation, puis aussi, il y a quand même un beau travail de garder ça cartésien, si on veut dire, là, très scientifique. Il y a une base en sciences, et justement, il va continuer son travail scientifique parce qu'il va participer à de nombreuses études sur la méditation en tant que chercheur, mais aussi en tant que cobaye, parce qu'avec toutes les heures de méditation qu'il a pratiquées, ben ça, c'est des cobayes très intéressants pour les études en neurosciences qui veulent comprendre ce que c'est la méditation. Puis, en fait, depuis l'an 2000, il fait d'ailleurs partie du Mind and Life Institute, qui a pour objectif de faciliter la rencontre entre la science et le bouddhisme. Et c'est donc une personne tout choisie là, pour faire ce type de travail-là. Là. Quelqu'un avec une formation autant scientifique qu'on pourrait dire une formation spirituelle bouddhiste. Donc c'est vraiment une personne très très intéressante qui réussit à faire le pont entre l'Occident et l'Orient, et pas uniquement la francophonie, parce que Mathieu Ricard, il est aussi sur la scène anglophone, il va réussir à nous faire découvrir un peu partout les sagesses et les réalités qui sont plus étrangères qu'on le pense parfois, parce que on a toutes des a priori concernant le bouddhisme ou même le Tibet, la méditation, ces endroits-là, ou ces réalités-là que finalement on connaît pas tant, puis heureusement, ben on a une anthropologue parmi nous qui peut nous aider à essayer de comprendre des réalités qui sont loin, qui sont des cultures étrangères, parce que Raph, tu vas nous aider, tu vas m'aider aussi. Moi, je connais pas tout le contexte dans lequel s'inscrit Mathieu Ricard, mais toi, tu as fait un petit peu de recherche à ce niveau-là. Là.
Ouais, ben je peux vous fournir le peu de connaissances que je possède à ce niveau-là. J'ai fait un cours au bac là, sur le Tibet, sur l'Himalaya, puis le bouddhisme, donc je peux vous apporter des petits repères. D'abord, géographiquement, là, on est autour de l'Himalaya. L'Himalaya, on le sait, c'est une chaîne de montagnes. En sanskrit, ça veut dire la demeure des neiges. Je trouvais ça très joli.
Ah, c'est très beau.
Donc, c'est un ensemble de montagnes qui est très, très long. Puis, en gros, ben, ça sépare le sous-continent indien du plateau tibétain, donc la région qui nous intéresse là, dans le sud de l'Asie. Bon, l'ensemble montagneux de l'Himalaya a à l'ouest le fleuve Indus, à l'est le fleuve Brahmapoutre qui délimite à peu près. Donc, on parle d'une aire d'environ 600 000 km². L'Everest, qu'on connaît tous, c'est un de ces monts-là qu'on retrouve dans la chaîne de l'Himalaya. Mais l'Himalaya fait aussi partie d'un ensemble montagneux encore plus grand qu'on appelle l'aire Hindoukouche-Himalaya. Donc ça, ça comprend plein d'autres chaînes de montagnes, dont l'Hindoukouche, le Pamir, tout ça. C'est un ensemble montagneux qui chevauche 8 pays. Donc on a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent dans cette aire géographique-là. On parle de 140 millions de personnes. Donc, les pays qu'on retrouve autour de l'Himalaya, il y a le Népal d'abord. Le Népal, c'est un pays qui est entre l'Inde et le Tibet. Donc, le Népal, la capitale Katmandou, c'est un pays qu'on connaît beaucoup pour ses temples, ses montagnes, tout ça. On dit que Katmandou, la capitale, c'est tout un labyrinthe de sanctuaires, de temples hindous et bouddhistes.
D'ailleurs, Mathieu Ricard réside au Népal. Ben, il est tout le temps en train de faire le tour du monde, mais il y a une résidence au Népal.
Oui, effectivement. Puis juste à l'est, on retrouve le Bhoutan, qui est un autre pays. On parle d'un royaume bouddhiste, qui est réputé aussi pour ses monastères, ses forteresses, ses paysages. Donc, c'est à peu près ça pour dans la chaîne, juste au nord, on retrouve l'Inde, qui est limitrophe au Népal, au Bhoutan et au Pakistan à l'ouest, Bangladesh à l'est. Donc, c'est un peu ça. On a le Tibet, comme je vous disais, qui est c'est le plateau. C'est le plateau le plus haut, en fait, le haut plateau, le Je vais redire ça. C'est le plateau habité au monde qui est le plus haut.
Okay.
Donc, c'est ça, on est au nord de l'Himalaya. Et c'est une zone qui est habitée traditionnellement par les Tibétains, mais il y a aussi beaucoup d'autres groupes ethniques là, qui se chevauchent dans cette zone-là. Et, bon, historiquement, le Tibet, c'est une région qui est assez contestée par différents groupes. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve différentes configurations territoriales. Quand on parle de Tibet, il y a plusieurs manières d'appréhender ce que c'est que le territoire du Tibet. On a le Tibet historique, qui est celui qui est revendiqué par le gouvernement tibétain en exil. Donc, on a les trois régions traditionnelles qui sont Lhotsang, Lamdo et le Kham. On a Lhasa, qui est la capitale historique, que vous connaissez peut-être. Lhasa, ça incarne l'autorité religieuse, politique, culturelle du Tibet. Donc, le Tibet culturel, c'est ces trois grandes régions-là. Ça recoupe des parties de la Chine, des parties du Bhoutan, du Népal, du nord de l'Inde, du Pakistan. Mais il y a dans ces régions-là, c'est important de mentionner beaucoup d'autres ethnies qui ne sont pas tibétaines.
Quand tu parlais de l'identité politique, culturelle, religieuse du Tibet, est-ce que c'est là qu'on va parler de la figure du Dalai Lama?
Oui, on s'en vient là-dessus, absolument. Je voulais juste vous donner peut-être une autre petite précision avant. On a aussi la région autonome du Tibet. Là. Ça, c'est comme la région officiellement reconnue par la Chine, qui n'est pas un pays en soi, c'est vraiment une région de la Chine. Depuis 1965, donc une quinzaine d'années après l'intervention militaire de la Chine au Tibet, qui a forcé justement le gouvernement tibétain à partir en exil. Le Dalai Lama est parti en exil à ce moment-là. Donc, le Dalai Lama dont on parlait, c'est pas une figure là, qui a toujours régné politiquement et religieusement sur le Tibet. On parle de la fin du 14e siècle. Il y avait différentes branches, là, différentes écoles de bouddhisme tibétain. Donc, il y avait différents regroupements religieux. Et au 14e siècle, il y a un chef religieux, un érudit, qui lance sa propre école. Donc ça va être l'école des Gelugpa, donc les bonnets jaunes, les vertueux, et c'est à cette école-là que le Dalai Lama appartient. Donc, c'est beaucoup grâce aux Mongols que le Dalai Lama est devenu comme le chef spirituel du Tibet. Donc, on dit merci aux Mongols. Et le Dalai Lama, en fait, ça serait une émanation du Bouddha de la compassion. C'est comme ça qu'on le considère. Et, en gros, le Dalai Lama a eu, pendant un bon nombre de décennies au Tibet, un système duel religion et politique. Donc, il était à la fois chef religieux et politique du Tibet. Ça l'a perduré jusqu'en 2011. En 2011, le Dalai Lama, en exil en Inde, a décrété la fin de ce système duel-là. Donc, il est seulement maintenant le chef spirituel, la figure spirituelle. Oui, Patrick?
Oui, bien, juste souligner qu'on parle du Dalai Lama, c'est la figure. Là. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées. Là. Lui
oui,
dont
absolument.
On parle en ce moment, c'est le 14e, là, pour pas que les gens pensent que c'est quelqu'un de très, très, très vieux. Ben, il est très vieux, pas de genre 400
ans. C'est un peu un rôle, là, Dalai Lama, je comprends.
Exactement.
T'as tout à fait raison. C'est un peu comme quand on dit le pape, je veux dire, c'est pas le même depuis, depuis des années. C'est, Dalai Lama, c'est une réincarnation et, bon, à la mort d'un Dalai Lama, le prochain est désigné. On le trouve habituellement quand il est encore enfant. On découvre qu'il est la réincarnation du Bouddha. On lui fait passer certains tests, là, entre autres, là, qui sont assez intéressants. Donc, c'est ça. Depuis 2011, Dalai Lama se cantonne seulement au domaine spirituel. Et le gouvernement des Dalai Lama, c'est une organisation politique qui s'occupe de l'organisation selon la loi du Dharma, que je ne sais pas si vous connaissez.
J'ai entendu, mais c'est loin.
Je connais le roman de Dharma Bums de Jack Kerouac.
Non, c'est pas exactement ça.
Ça a un lien.
Le Dharma, c'est assez simple, c'est les enseignements du Bouddha, dans le fond. Mm. Fait que c'est de vivre selon les enseignements du Bouddha, puis ça recoupe, ben, comme on va pouvoir en parler, ça recoupe vraiment comme toutes les facettes de la vie humaine, à la fois au niveau spirituel et au niveau de la vie plus physique. Et bon, c'est ça, le bouddhisme, c'est pas monolithique. On retrouve pas seulement le bouddhisme tibétain, le bouddhisme
prend... C'est une grande famille.
C'est une grande famille, exactement. Ça prend plein de formes très différentes selon le pays, selon l'école, selon la branche, la sous-branche même.
Donc, mais déjà, le bouddhisme s'inscrit dans les traditions de védiques, je pense qu'on appelle, mais les traditions de l'hindouisme. Donc, de ce que je comprenais, c'est qu'à l'époque où le bouddhisme est né, même utiliser le terme pour qualifier l'hindouisme, qui est déjà tout qu'un ensemble de pratiques spirituelles, n'était même pas utilisé. Donc, le bouddhisme, on ne pouvait pas dire qu'il émanait de l'hindouisme, mais c'était plusieurs philosophies ou spiritualités qui se côtoyaient.
Ouais.
Puis, il y a eu des ramifications là, qui ont mené plus au bouddhisme,
ouais.
Qui, lui, en plus, s'est diversifié.
Et très ramifié, oui.
Exactement.
Donc, c'est un ensemble qui est très complexe, mais en gros, bon, c'est des nombreuses traditions qui découlent toutes de l'Inde au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ça découle tout de l'enseignement du Bouddha originel qui s'appelle Siddhartha Gautama. Et on retrouve plus de 600 millions, là, c'est un gros estimé parce que, bon, il n'y a peut-être pas des recensements qui sont faits dans tous ces pays-là, mais plus de 600 millions de bouddhistes dans le monde. Donc, comme on disait avec François, plusieurs pays, plusieurs traditions, plusieurs écoles, des branches, des lignées. Donc, c'est très, très vaste. En gros, le bouddhisme tibétain, ça serait l'un des plus, bon, rigoureux, entre guillemets, l'un des plus peut-être...
un peu mystique, ça se peut-tu?
Ouais, mystique, un peu plus rigidement religieux, là, j'ai envie de dire, là, une école un peu plus orthodoxe, là, si on veut. Là. Mais ouais, ça peut prendre toutes sortes de formes très différentes.
Mais Mathieu Ricard, donc, s'inscrit là-dedans. Il est l'interprète du Dalai Lama, mais la forme, la religion, c'est pas nécessairement le côté religieux qui va amener en Occident, plus un côté spirituel, philosophique, psychologique peut-être. On va en parler après la pause publicitaire, je crois.
Oui, exactement. On va passer
c'est
au
quoi qu'on écoute après comme chanson,
Patrick? On va écouter une chanson qui s'appelle Tara Mandra, d'une artiste là, dont on va pouvoir vous parler, mais on va essayer justement d'entrer un peu dans cette culture-là. Donc, on écoute quelque chose qui est inspiré des mandras, donc ces prières bouddhistes. Alors, tout ça après la pause.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Cheese 94.3.
Alors, nous sommes de retour sur la planète des sages à Chiz 94.3. On dirait que j'ose pas élever la voix en ce moment.
On dirait qu'on sort tout d'une petite méditation, hein?
Ouais, ça serait bizarre de recommencer ça par un « Re-bienvenue sur les ondes de Chiz!
Yeah! »
Mais oui, on écoutait Tara Mandra, donc de Annie Chuying Drolma. C'est un featuring avec, Sima Vodjani, un artiste qui est quand même reconnu, Sima Vodjani, pour faire de la musique de méditation, finalement. Là, entre autres, un album qui se retrouve chez beaucoup d'Occidentaux qui méditent, qui s'appelle Sacred Buddha. Mais là, donc, cet album-là en question, donc, c'est cette moine bouddhiste qui chantait, Anne Chuying, qui connaît Mathieu Ricard. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait jouer aujourd'hui.
Oui, oui, c'est un artiste que Mathieu Ricard apprécie, qu'il connaît personnellement et qui, d'ailleurs, tout comme Mathieu Ricard, va dans ses pratiques, c'est la partie artistique, mais l'argent, les revenus qu'elle fait, va aller à des causes humanitaires. Donc, tout plein de belles personnes qu'on découvre aujourd'hui.
Donc, pour ceux que ça l'intéresse, là, c'est Dancing Dakini qui est paru en 2000.
Parfait. Merci beaucoup, Patrick, pour ce choix musical. Donc, on parlait de bouddhisme tibétain. Merci, Raph, de nous avoir mis en contexte parce que c'est quand même... C'est un monde, c'est des réalités qu'on connaît très peu, c'est très éloigné.
Ah, puis on a à peine effleuré.
Exactement, oui, bien sûr. Et d'autant plus que ça nous démontre que des personnalités comme Mathieu Ricard qui font un pont entre ces réalités-là qui sont loin de nous pour nous digérer ce qu'ils ont vécu, ben on en a besoin parce que c'est plein de belles sagesses que peut-être qu'on n'aurait pas l'opportunité d'apprendre si ce n'était pas des personnes comme ça qui font ces types de ponts-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme on le disait, c'est que dans le bouddhisme tibétain, tu le disais, Raphaël, il peut être très religieux, peut être un peu mystique, mais dans la forme généralement exportée en Occident, grâce à des gens comme Mathieu Ricard, on le connaît plus sur sa forme philosophique et j'aurais même envie de dire psychologique. Donc, on s'est amusé, Patrick, d'ailleurs, dans le cadre de l'émission, dans la lecture du plaidoyer pour le bonheur, qui est vraiment plus l'aspect, on pourrait dire, philosophique, qu'est-ce que le bouddhisme au niveau philosophique nous amène, comment il peut nous être présenté. Toi, jusqu'à ta lecture n'est pas finie, mais qu'est-ce qui t'interpelle à date le plus?
J'adore, je vais devenir un moine, je crois, à chaque page. Je suis comme, mais pourquoi je donne pas plus de sens à mon existence? On s'entend, c'est un livre quand même qu'on peut associer à une espèce de psychopop, n'importe qu'on pourrait dire. Je sais qu'il traîne souvent parmi d'autres livres parce que, bon, le titre plaide pour
le développement personnel.
Exactement. Mais en rentrant à l'intérieur, on voit vite que c'est pas ça. Là. C'est quand même. Même qu'il y a une critique qui est faite de certaines façons d'entretenir son malheur et qui se retrouverait dans certains livres de croissance personnelle. Oui. Parfois, la fameuse acceptation de soi comme étant quelque chose qui ne bouge pas. Là, que, je suis comme ça, il vaut mieux l'accepter. Donc ça, je pense que c'est quand même mis à l'épreuve dans ce livre-là et c'est très bien fait avec des beaux liens, encore une fois, avec la culture bouddhiste, mais plus encore dans une vulgarisation qui est très claire et avec des liens aussi avec différents courants philosophiques. Là, il y a énormément de citations, donc on voit que Ricard a lu beaucoup, a compris ce qu'il a lu, mais après ça, il en fait quelque chose d'assez complet et quelque chose qui est ancré finalement dans sa propre pensée. Je dis sa propre pensée, c'est un peu contradictoire avec le bouddhisme en tant que tel, parce que c'est la pensée bouddhisme, devrait-on dire.
C'est sans être dogmatique, parce que la philosophie bouddhiste et même surtout les pratiques méditatives, ce que moi a été le côté qui m'intéressait plus de l'ouvrage, c'est vraiment le côté la méditation, parce que c'est très psychologique, c'est très pragmatique, c'est très, très pratique. Donc, c'est tellement ça, c'est tellement comme... ça peut être exporté facilement parce que ça, on n'a pas besoin de prémices, d'acceptation de prémices religieuses pour adhérer à certaines façons de penser bouddhistes ou d'adhérer à certaines pratiques.
Exactement. Mais là où je dis que ça serait contradictoire de dire qu'il y a une recherche de sa pensée, c'est qu'on n'est pas en train de voir, comme dans des ouvrages philosophiques, un penseur qui essaye de découvrir quelque chose qui serait nouveau en tant que tel. Il essaie juste d'exposer quelque chose qui est là depuis toujours, donc soit ces états qui, bon, à travers le vocabulaire utilisé dans le bouddhisme, sont mis en place. Donc, on parle plaidoyer pour le bonheur, mais finalement, rapidement, il nous dit la notion de bonheur, c'est pas clair. Je vais vous parler d'une notion qui est le sukha, donc une notion bouddhiste, selon laquelle qui serait plus proche du bien-être. Mais là, bien-être, malheureusement, a comme pris des connotations, disons, un peu vides dans notre monde.
Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est autant dans un livre comme Plaidoyer pour le bonheur, il y a la terminologie bouddhiste, mais en même temps, il y a celle du public auquel il s'adresse. Les Occidentaux, justement, tu parlais, il y avait ils mettaient ça en comparaison avec des racines philosophiques occidentales, donc en regardant la pensée de d'autres philosophes, mais aussi un autre discours qui, au 20e siècle, est vraiment important pour nous, être humain de l'Amérique, mais c'est le discours scientifique, le discours, on pourrait dire, plus cartésien. Mais Mathieu Ricard, comme on le dit, possède un doctorat en génie génétique. Donc, il connaît cette façon-là d'aborder les choses, la pensée scientifique. Et je vais vous laisser vous parler justement de sa manière de parler de la méditation. Regardez bien le langage utilisé.
La méditation, en fait, faut démystifier un peu le mot. c'est-à-dire revenir aux racines sanskrites et tibétaines, qui veulent dire cultiver, se familiariser avec quelque chose. C'est un entraînement de l'esprit. Donc un entraînement de l'esprit, il appartient à personne, il appartient à tout le monde. Si un physicien trouve une nouvelle particule, même s'il est japonais, la particule n'est pas japonaise, elle existe ou elle n'existe pas. Donc, s'il y a des bienfaits à entraîner son esprit, le bouddhiste, certes, en a fait une certaine spécialité depuis 2500 ans. Ceci dit, le Dalai Lama souvent distingue la science bouddhiste, la philosophie bouddhiste et la pratique du bouddhisme. Donc, la science, c'est une approche empirique du fonctionnement de l'esprit, des émotions, des pensées. Peut-on entraîner notre esprit à l'attention? C'est une question extrêmement pratique. Et ça, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une science? C'est une approche rigoureuse de la réalité où on essaie de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Donc
cette science bouddhiste-là, c'est justement, on peut le voir se manifester le plus dans ce que justement Mathieu Ricard parlait au départ, mais la méditation, qui est quelque chose dans nos yeux parfois d'incompréhensible. La méditation, il y a beaucoup de préjugés associés à ça. C'est comme si c'était une pratique spirituelle très, très abstraite, un peu ésotérique, mais finalement, c'est ce que des gens comme Mathieu Ricard essayent de nous faire comprendre à travers leur ouvrage et leur travail de vulgarisation. C'est quelque chose de très pratique et même de forgé par une espèce de pensée scientifique, quelque chose d'empirique. Donc, l'observation de qu'est-ce que du fonctionnement de l'esprit. Et on pourrait dire que ce qui vient brouiller les cartes, c'est que c'est une observation subjective parce qu'on est les seules personnes qui peuvent observer le fonctionnement de notre esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la science s'est développée et aujourd'hui, on est capable d'avoir des nouvelles méthodes pour essayer de comprendre la psychologie des gens, donc comme le fonctionnement de l'esprit de tout le monde, et notamment sur par rapport à la pratique de la méditation, parce qu'on sait les neurosciences actuellement qui sont développées au courant du dernier siècle, c'est vraiment fascinant, sont très très vont faire beaucoup de recherches sur la méditation, alors que on pourrait dire que la psychologie, la philosophie, oui, c'est peut-être intéressé à la méditation dans leur domaine respectif, mais la neuroscience, c'est fascinant à quel point la neuroscience, le domaine de la neuroscience s'intéresse à la méditation. Et la raison est simple, c'est que les bénéfices de la méditation sur le cerveau sont visibles de par les technologies de d'imagerie à résonance fonctionnelle, d'où l'électroencéphalogramme. Là, je plug plein de mots qui ont l'air scientifique, là, mais je veux dire, c'est des manières de justement avoir une observation directe et on pourrait dire anatomique des effets, les bénéfices de la méditation sur le cerveau. Moi, je m'y intéressais beaucoup à cette partie-là, comme vous pouvez peut-être le voir, mais on voit que la méditation, c'est les pratiquer à court terme, elle a des effets déjà visibles où on peut, les gens qui la pratiquent vont voir une différence, vont être capables. La plupart des gens qui pourraient répondre à des questionnaires, qui répondent à des méthodes scientifiques, vont dire il y a un effet sur ma psyché, comme sur mon vécu, mon expérience. Et ça, c'est une des méthodes scientifiques qui peut être utilisée pour voir la chose. Mais quand on regarde les méthodes d'observation du cerveau, on voit aussi qu'à long terme, la pratique de la méditation effectue des changements fonctionnels, des changements structurels. Il y a des zones d'activité du cerveau qui vont, en fait, des zones du cerveau qui vont diminuer l'activité, celles associées aux émotions négatives. Là, je suis très grossier dans ma manière de parler des grandes constatations, mais et certaines zones du cerveau qui vont s'activer, qui vont les zones de la métacognition, c'est-à-dire de réfléchir sur le terme métacognition en psychologie, c'est de réfléchir sur son esprit, de capacité à analyser son propre esprit, ses cognitions. Donc ces zones-là du cerveau vont être plus activées et vont même croître en termes de volume. Donc on voit que les neurosciences peuvent nous dire, voyons, les gens qui pratiquent la méditation il y a des changements, il y a des bénéfices visibles. Et là, les scientifiques s'allient avec les militants justement pour finalement constater que c'est une pratique qui peut être vraiment être bénéfique pour tous.
Oui, et peut-être pour les non-initiés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la méditation. On en parlait d'ailleurs récemment avec un ami en commun, mon colocataire, qui était comme, mais qu'est-ce que c'est méditer?
C'est tellement simple que ça devient compliqué, j'ai l'impression.
Oui, mais c'est simple. En même temps, il ne faut pas se rattacher à l'image qu'on a peut-être là, de fermer les yeux puis penser à un ruisseau. Mais, je trouve que Ricard en parle très bien quand il dit que c'est un entraînement de l'esprit. Mmh. Et ça justifie, j'en parle en l'instant, parce que je trouve que ça justifie ce que tu es en train de dire, François, au sens où si on peut entraîner notre esprit, et la méditation part de cette prémisse, eh bien, on peut avoir cette prise-là sur nos façons d'être, finalement, sur notre bien-être, sur notre soukha. Et c'est fascinant de voir que, justement, ça se prouve scientifiquement. Puis Ricard, moi, le moment où il m'a le plus eu, je pense, c'est quand il a dit, en une entrevue, je pense, à France Culture, il dit... On a accepté en Occident qu'on peut aller à l'école et apprendre des choses. On a accepté qu'on peut se pratiquer un sport ou une activité physique et devenir meilleur là-dedans. Pourquoi on n'a pas accepté que quand on s'attarde à être une meilleure personne, on peut le faire?
Oui, et c'est très particulier parce que on dirait que le développement personnel, c'est quelque chose qu'aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, mais sans nécessairement qu'il y ait une méthode qui ait été développée, sans nécessairement qu'il y ait, du sérieux là-dedans. La psychologie tente de le faire, mais la méditation est une des techniques, justement, une des méthodes qui, là, de plus en plus devient scientifiquement prouvée, qui va nous aider à améliorer notre bien-être, notre soukha, d'améliorer nos cognitions, tellement que il y a l'Université de Strasbourg a développé nouvellement un programme de formation médecine, méditation et neurosciences. Tu sais, la méditation fait partie du cursus, donc ça démontre vraiment une espèce de changement de paradigme d'une compréhension très naïve et empreinte de préjugés ésotériques de la méditation à quelque chose justement que plus psychologique. OK, oui, on s'assoit, mettons, parce que c'est peut-être pratique, là. On s'assoit quand on pratique la méditation, mais le gros de l'activité se passe à l'intérieur de notre esprit, de l'observation des pensées et d'avoir un certain détachement par rapport à ça, toutes les pensées qui vont spontanément jaillir dans notre esprit. Mais c'est la méditation, essentiellement, c'est cette pratique-là pour ensuite nous aider à remarquer les automatismes ou les manières qu'on a d'attribuer peut-être des mauvaises intentions aux autres sans le vouloir, mais tout ce que le bouddhisme, pour ramener à la philosophie du bouddhisme, toutes les toxines mentales, ces choses-là qui polluent notre esprit de choses qui finalement sont vicieuses, ne sont pas bonnes pour l'être humain, car c'est ce que Ricard dit, ce que la philosophie bouddhiste essentiellement dit, de ce que Ricard peut nous transmettre comme vulgarisation de la chose, c'est le bouddhisme dit ce soukha-là, cette espèce de bien-être-là, est là. Quand tu es un être humain, tu es un être vivant, l'état absolu de la conscience est une espèce de conscience heureuse, empreinte de compassion, de sérénité, de bienveillance, et c'est l'accumulation de toxines mentales, d'automatismes et de tous nos stress du quotidien qui viennent polluer cet espace-là qui est là. Donc, le bouddhisme vient pas nécessairement comme rajouter « Ah, on va te donner une nouvelle capacité. » Tu sais, des fois, on entend ça avec l'idée d'un éveil spirituel, comme si quelqu'un allait avoir des capacités vraiment surhumaines tout d'un coup. Mais non, c'est pas un ajout, mais plutôt un retrait de choses de la pensée qui nous permet d'avoir une pensée plus claire et plus bienveillante et par nature plus empreinte de compassion.
Mm-hmm. Puis c'est tout à fait vrai ce que tu disais, puis j'écoutais moi aussi là, des entrevues avec lui, puis il disait ben c'est ça, c'est quelque chose que t'as en toi, tout le monde a ça en soi, puis c'est pas parce que t'as des toxines mentales, t'as des poisons mentaux que ça réduit ta capacité à élever ta conscience. Tu sais, il donnait l'image très parlante de t'envoies un jet de lumière sur un tas d'ordures est-ce que la lumière est salie à cause qu'il y a un tas d'ordures là? Ben non, tu sais. Et tu peux t'entraîner justement à enlever, à débarrasser ce tas d'ordures là. La lumière est là en toi dès le début, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut que t'entraînes.
Ben justement, c'est une autre analogie parce qu'il en utilise plusieurs. Autant le discours scientifique, on pourrait dire très froid cartésien, mais autant que ça, c'est difficile à lire là, à long terme. Puis on aime ça avoir l'enveloppe, on pourrait dire, de personnel, t'sais, expérientiel, de quelqu'un qui l'a vécu aussi, qui est capable de le mettre en termes plus... qui vient résonner émotionnellement avec nous. Et je vais vous mettre un petit extrait justement d'un autre type d'analogie pour exprimer cette idée qui peut un peu complexe, mais d'un bonheur qui est finalement, ou d'un sukha qui est finalement au fond de nous. Là.
La nature de Bouddha est aussi décrite comme une pépite d'or qui est toujours présente au plus profond de la nature de notre conscience, même si nous sommes extérieurement dans l'ignorance. De même que cette pépite d'or peut être tombée dans la boue, mais l'or ne change pas. Et il suffit de la prendre, de la polir, de la faire briller, mais on ne la fait pas briller, on ne la fabrique pas. On révèle son éclat naturel. Et cet éclat, c'est justement la compassion. C'est-à-dire de cette réalisation spirituelle, de cet éveil, il ne peut y avoir d'autre chose qu'une expression d'un amour infini pour les êtres qui eux-mêmes sont pris dans cette ignorance.
Donc, c'était la voix de Mathieu Ricard qui exprime cette fameuse idée de la pépite d'or. Je pense qu'on l'avait croisée dans le livre Plaidoyer pour le bonheur, mais c'est encore cette image-là de quelque chose qu'il faut quand même activement cultiver. En fait, elle est là, mais il faut cultiver cette espèce de nettoyage de la pépite d'or. Et c'est là que ça devient intéressant, ce que tu disais, Patrick, mais cette espèce de nécessité-là active de le faire. Et les bouddhistes, de par une pratique très sérieuse de la méditation, c'est chacun a comme un temps alloué qui lui est personnel. Je pense que Mathieu Ricard disait que le Dalai Lama prenait 4 heures le matin pour méditer avant de commencer sa journée. Mais quand on y pense, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de temps à la pratique de la méditation et de la vie contemplative, de cultiver la sagesse, là.
Oui, mais soulignons quand même que c'est pas quelque chose qui... pour les moines, c'est nécessaire de prendre autant de temps, mais Ricard revient souvent sur le fait, oui, mais attention, ça peut se faire dans n'importe quelle vie, à plus petite échelle, à plus petite dose, devrait-on dire. Donc, prendre des 20 minutes par jour, c'est pas si dur que ça, quand tu penses à ça. Mmh. Tu sais, 20 minutes, c'est le temps de son jogging, ou de je sais pas quelle autre activité on fait. Ben, c'est beaucoup d'émissions sur Netflix qu'on prend le temps d'écouter. Donc, c'est ça. Je pense que... et le moine vient représenter la forme... pas complète nécessairement, vu que les
idéal, moines,
idéal, un peu le modèle à suivre, là, finalement, là, vers ce vers quoi on peut tendre et la preuve qu'il y a une possibilité d'atteindre la sagesse.
Et justement, cette image idéale du moine est tellement difficile d'atteindre que justement, on va souvent trouver une espèce d'excuse. Ben, eux autres, ils font juste ça, méditer, ils n'ont pas à travailler, puis ça, ils sont à l'écart de la société, ne participent pas, ils font juste méditer. C'est sûr que c'est facile d'être quand tu fais juste ça. Cela dit, c'est pas c'est un autre préjugé qu'on a, parce que le bouddhisme se veut justement une philosophie de on développe notre bienveillance, notre capacité d'enlever les toxines mentales, de réduire l'ignorance. Donc le terme ignorance au sens bouddhiste est beaucoup plus complexe et lourd de sens que l'ignorance de fait, je sais pas comment appeler ça.
C'est pas une ignorance savante, finalement. C'est pas l'idée de tu n'as pas lu tel livre ou tu ne connais pas la théorie de tel philosophe. Donc, c'est une ignorance de la nature des choses. Encore une fois, on tombe dans des zones où, justement, ça devient compliqué d'un point de vue philosophique occidental, vu que c'est des formules qui peuvent sembler vides, la nature des choses, et c'est là où on tombe dans la dimension empirique du bouddhisme, de dire oui, mais ça s'expérimente.
Oui. C'est la nature de l'esprit aussi, la nature des choses, mais la nature de l'esprit, de la conscience, de regarder un petit peu comment se passe la conscience, l'esprit, et tu verras. Fait que souvent, cette idée-là dans le bouddhisme, on peut bien essayer de te l'expliquer des concepts, mais à un moment donné, check, vas-y, essaye-toi, là, puis tu vas voir. Et c'est cette idée des moines aussi qui est comme en dehors de la société. Mathieu Ricard nous prouve également que c'est faux d'une certaine façon, parce que quand on parle de son curriculum vitae, il en fait des choses, là, Mathieu Ricard. Et lui, il aime l'exprimer de cette façon-là, c'est la compassion en action. Donc ça, c'est une petite formule tirée de son site web, mais c'est cette manière de justement de, oui, on va développer la philosophie, on va aller méditer, on va participer à des études scientifiques prouver que la méditation, c'est le fun, mais c'est toujours dans... Il y a ce retour toujours à la société qui est important, et lui qui va le faire en fondant, par exemple, des associations. Il y a une association qui s'appelle Karuna Sechen, qui existe depuis 2000, et son but, c'est justement à travers les livres que Mathieu Ricard va écrire, mais à travers d'autres activités qui pourraient ramasser des sous, c'est pour offrir des soins de santé, des services sociaux, d'éducation à plein de gens au Tibet, au Népal et en Inde, là. Donc, il y a quelque chose de très, très pratique et très, très, justement, on s'implique dans la société.
Et ma découverte cette semaine, personnellement, en lisant et écoutant beaucoup de Ricard, c'est, ben, je crois avoir compris que les moines se spécialisent d'une certaine façon, et encore une fois, de ce que j'en comprends, Ricard s'est spécialisé du côté de l'altruiste et de la compassion. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il axe sa méditation. Tu sais, il dit souvent que c'est dans ses méditations favorites, ceux qui sont tournés vers l'altruiste. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce travail-là en action. Et c'est pour ça qu'il souligne aussi souvent ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le moine n'est pas que reclus. Et même n'importe qui dans la vie qui entame une démarche spirituelle de type bouddhiste ne peut pas le faire en se disant « Eh bien, ça marche pas, tout le monde est malheureux, mais moi, je vais essayer de me sauver de ça, au moins, en méditant. » S'il n'y a pas cet élan de compassion dès les premiers instants, disons, de notre démarche spirituelle, je pense que c'est raté, d'une certaine façon. Ben, c'est raté, ça ne fonctionnera pas. Ça peut pas lever. On peut pas devenir le Bouddha se foutant des autres.
Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que, en plus, la culture du développement personnel occidental actuellement a souvent des racines assez plongées, assez fort dans l'individualisme, là. Mais tu sais, comment il y a des livres, là, ça me fait tout le temps capoter, là, mais comment manipuler les autres ou comment être performant, mais tu sais, il n'y a jamais cette notion-là sous-jacente de, oui, tu peux essayer de cultiver la sagesse, mais sache que on vit tous en interaction avec les uns et les autres. Les bouddhismes ont une vision beaucoup plus complète de ça, mais que tout est en interdépendance et que c'est impossible de se cultiver soi-même sans essayer d'élever les autres au passage. On vit pas en circuit fermé, donc ça serait impossible de juste vouloir s'aider soi-même, puis finalement de vraiment s'aider spirituellement, mais de grandir réellement de façon spirituelle. Et c'est vraiment plusieurs choses que Mathieu Ricard nous permet de réfléchir, nous, parce que déjà on a c'est toutes ces idées-là que vous l'avez constaté, parfois peut être complexes. On a des personnages comme Mathieu Ricard qui justement font le pont, qui nous permettent de vulgariser ces idées-là, de le faire d'une façon qui nous est accessible, compréhensible, et également qui va faire écho à nos attentes de société, à ce qu'on est comme culture. Donc, parler de science à travers ça. Donc, c'est vraiment un personnage qui est vraiment fascinant pour plusieurs raisons.
Bien, merci beaucoup, François. C'était un plaisir cette semaine de découvrir Mathieu Ricard et à travers ça, bien, un peu du bouddhisme tibétain. Donc, on était super enthousiastes cette semaine et on va l'être encore la semaine prochaine, alors qu'on va parler de qui?
Je me souviens plus, c'est qui qu'on parle?
Oui, quand on parle de Katia Kraft.
Ah oui, donc c'est, je vais découvrir.
Oui, c'est Milly Brousseau-Gauthier qui revient pour nous parler de cette chère volcanologue.
Oh!
Oui, en tout cas, on entre dans quelque chose de complètement différent, ouais. Comme toujours à la planète des sages, d'ailleurs. On va chercher un peu partout.
Ça se peut-tu, là, je dis ça de même, et que ce soit la première volcanologue qu'on parle à l'émission?
Je pense qu'il faudrait faire des recherches. Et vous pouvez vous-même aller voir si on a déjà parlé de volcanologue sur notre page Facebook, La Planète des Sages. On nous trouve également sur le site de Shiz. Et puis, on est sur Spotify. Donc, si vous voulez nous réécouter, sinon, il y a toujours moyen d'aller sur le site de Shiz 94.3. On se revoit jeudi prochain à 11h, notre rendez-vous. Merci tout le monde.
Chiz 94.3 FM à Québec.
T'es aux études, à la recherche d'un emploi stimulant et diversifié? Tu veux fusionner études, travail et passion avec une équipe dynamique et sympathique? ADM Sport a besoin de ton talent, ton enthousiasme et ton ambition. Nos passionnés de véhicules récréatifs recherchent des conseillers aux ventes, département des vêtements. On t'offre un salaire compétitif, une prime annuelle, des rabais employés fort intéressants et même une formation à ton arrivée. Joins-toi à la grande famille ADM Sport. Envoie ton CV à ressources.humaines@commercialadmsport.com.
Bord de la rive à Yards and Shaw, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Shiz 94.3 ou au www.shiz.ca. À bientôt!
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
À l'envers.